Voilà, bonjour pour cette dernière étude biblique de l'été, donc autour du temps, et là c'est notre éternité dans l'Évangile. Alors c'est vrai que nous sommes allés chercher un peu dans l'Ancien Testament, d'abord dans les psaumes en particulier, quelle vision on pouvait avoir de notre éternité, ou non d'ailleurs. Ensuite, pas mal dans les épîtres, et maintenant c'est les Évangiles, donc pour terminer dans le peut-être le plus important pour nous finalement. Alors, j'ai cherché dans... Vous savez que dans les évangiles, il y en a quatre évangiles, ce qui est vraiment d'ailleurs extrêmement... une grande chance pour nous, parce que c'est très libérant d'avoir différentes optiques, différentes façons de voir ce qu'apporte le Christ. Et donc d'avoir ces quatre témoignages différents. Cela dit, quatre témoignages différents, Matthieu, Marc et Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques, parce qu'ils sont assez proches. Et puis Jean est assez spécial, assez particulier, un peu une autre façon de présenter, de voir. Et donc, dans les synoptiques, d'abord Matthieu, Marc et Luc, quand on parle de vie éternelle, d'éternité, il y a un petit peu deux cas. Il y a, comme dans le premier exemple que j'ai marqué, Matthieu 25, la dernière phrase, donc il y a les justes qui iront pour la vie éternelle et puis les pécheurs pour le châtiment éternel ou le feu éternel, le feu qui ne s'éteint jamais. Donc c'est les premières possibilités où il est question de vie éternelle ou de choses éternelles, d'éternité pour nous dans les évangiles synoptiques. Et puis la deuxième, c'est Luc 10 par exemple. C'est plus quelqu'un qui vient demander à Jésus « qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour vivre de cette vie éternelle ?» C'est les deux cas finalement, et c'est assez proche. On va voir que Jean est assez différent dans la façon de voir. C'est beaucoup plus beaucoup moins peut-être dans une perspective un peu traditionnelle que l'on trouve plus présente dans Matthieu, Marc et Luc, où il y a la vie en ce temps, et puis ensuite il y a un jugement. On est peut-être des fois réveillé pour ce jugement, en tout cas convoqué pour un jugement, et puis avec un tri des personnes entre la vie éternelle, le paradis, et puis l'enfer pour les pécheurs. Alors c'était peut-être la vision d'un certain nombre de gens, bien que nous avons vu déjà dans le psaume premier par exemple qu'il y a plutôt un tri, non pas entre les personnes, sélection entre les personnes, mais plutôt une purification de chaque personne pour garder la plus belle partie de la personne pour la vie éternelle. C'est un peu la même question qui se pose ici, et on va retrouver dans cette parabole en particulier, cette parabole de Jésus qu'on appelle le jugement des nations, un peu cette même problématique. Qu'est-ce que Dieu garde en définitive de chacun ou de l'humanité? Alors, j'ai mis une petite illustration parce que c'est sur la voûte, vous voyez, d'une salle dans les catacombes. Les catacombes, c'était à Rome, c'était contrairement à ce qu'on pense, c'était pas des lieux où les gens se réfugiaient pour faire le culte quand il y avait des persécutions. C'était des lieux de sépulture. Et quelque part, sur les murs, on voit justement leur espérance de la vie éternelle, en fait. Qu'est-ce qui, pour les premiers chrétiens, des trois premiers siècles, quelle était leur compréhension de l'espérance dans la vie éternelle ? Et là donc, sur cette voûte, on a quelque chose qui est très fréquent, le Christ en berger, comme étant vraiment la clé de la vie éternelle pour nous. Et c'est ça qui est exprimé ici, c'est une illustration à la fois de ce Matthieu 25 que j'ai mis comme texte, mais à la fois aussi de, par exemple, Luc 15, dans Matthieu, on le retrouve aussi, la parabole donc de la brebis perdue avec le berger qui fait tout pour aller chercher la brebis qui est perdue. Alors Matthieu 25, qui se termine donc sur le châtiment ou la vie, châtiment éternel, vie éternelle. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, vous voyez, ça ressemble assez bien. Il y a le bouc à la gauche avec les cornes, vous voyez, et la brebis à droite. Et puis, on voit même avec le petit geste de la main, le petit regard vers la brebis, un peu le début du verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Voilà, voilà.
Et les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font ?
Les oiseaux, je pense que c'est une illustration d'une autre parabole. C'est la parabole de la graine de moutarde, le grain de sénévé, avec donc l'ensemencement du monde, de notre monde, de notre vie par le Christ, et puis cette germination. Alors, à mon avis, cette idée donc de la graine qui est jetée et qui germe, il peut y avoir aussi une connotation de vie éternelle, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que le grain, il meurt dans la terre, il se déconstruit, et puis il y a la plante qui pousse. Et en même temps, la plante, elle était contenue dans le grain, mais en même temps, elle est tout autre. Elle est verte alors que le grain est tout mort, et puis le grain meurt, mais cette mort du grain est une chance puisque ça donne une plante, et même une plante... Une grande plante, nous dit la parabole donc de la graine de moutarde ou grain de sénévé, puisqu'elle dépasse tous les légumes. Et Jésus nous dit qu'il y a les oiseaux du ciel qui viennent se réfugier dans ses branches. Alors ça peut évoquer, à mon avis, ça peut évoquer ça. Cette autre parabole qui exprime aussi l'idée que la vie en ce monde... est temporaire, certes, comme l'est le grain, mais il y a en elle-même la promesse ou les prémices donc, d'une vie éternelle. Alors, c'est bien possible. Les oiseaux, ça évoque quelque chose qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas très domestiqué, finalement. Dans la Bible, c'est un animal sauvage qui n'est pas domesticable. Donc, l'idée que les oiseaux puissent être ainsi accueillis sur cet arbre... Ça exprime peut-être notre être un peu brut, un peu une création de Dieu, mais quand même pas tellement, peut-être pas tellement encore éduqué, domestiqué, structuré, et qui reçoit là une structure, une façon de... Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le Fils de l'homme, bon... ça peut être c'est un titre qui peut convenir pour le Messie, c'est vrai qu'on le voit dans les prophètes tardifs comme étant un des titres donnés au Messie. C'est aussi dans l'Ancien Testament 9 fois sur 10, fils de l'homme, c'est un humain comme tout le monde, hein. Ça veut dire fils d'Adam, c'est un humain normal de chez normal, voilà, fils de la terre, parce que l'homme c'est Adam en fait, c'est dans l'hébreu, fils de l'homme c'est fils d'Adam. Ça exprime que l'homme dans toute sa nature normale, finalement. Et c'est intéressant que le Christ se présente lui-même comme fils de l'homme. Il aurait pu se présenter comme Christ. Comme fils de l'homme, c'est déjà assez significatif, comme une façon finalement très incarnée d'être au monde. C'est pas du tout un Christ, justement, en gloire. C'est un Jésus qui se présente comme un humain parmi les humains. Mais viendra dans sa gloire. Là, et voilà. Et en fait, le viendra, c'est un futur, mais c'est mal traduit. C'est un conditionnel. Et donc, on pourrait le traduire chaque fois que le Fils de l'homme est en train de venir dans sa gloire. Et donc, c'est plus une dimension peut-être à voir dans le temps présent, parce que c'est bien ça la promesse de l'Évangile, c'est que le royaume de Dieu, il n'est pas pour dans 1000 ans. Le royaume de Dieu est arrivé, le Christ est venu, le Christ vient, il vient dans notre existence, il vient en nous, il vient, voilà. Donc, est-ce que ça parle du futur, ça ? C'est pas si sûr, hein. Ça parle du présent, en fait. Il s'assied sur le trône de la gloire, alors il commence déjà à s'asseoir et il s'assiera pleinement dans la vie future, hein. C'est ça. Alors, c'est assez dynamique, oui. Alors, ensuite, donc, il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, hériter du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, etc. et que nous sommes allés vers toi? Donc ils sont très surpris en fait. Et puis le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait ces choses à un seul de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, et donc du coup, ils héritent de la vie éternelle sur le coup. Alors comment comprendre ça, si vous voulez, ça c'est là, très discuté, effectivement. Alors c'est symétrique, ceux qui sont à la gauche, les boucs, donc... Allez loin de moi les maudits dans le feu éternel, préparés pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, etc. Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et qu'on ne t'a pas rendu service? Il leur répondra, amen, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à un seul de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et donc ils vont droit au châtiment éternel. Ah, ça rigole moins, hein. Donc le berger, c'est quand même une figure très positive en fait dans la Bible. C'est une figure royale, c'est une figure divine, hein, comme dans le psaume 23, mais c'est pas un roi qui vient en guerrier, en justicier, c'est un roi qui s'occupe de ses moutons, de ses chèvres, qui les soigne. Alors on peut dire que si on élève des brebis et des boucs et des moutons et des chèvres, c'est quand même pour finir par les terminer en méchoui. Mais c'est pas du tout comme ça, on ne voit pas ça. L'image du berger, c'est pas pour faire des méchouis derrière. Hein. C'est une image d'un roi qui s'occupe dans l'humilité, dans la prière. Parce que le berger, c'est aussi une image assez spirituelle, si vous voulez, qui est dans la nature, qui est dans la louange, un peu comme David ou comme, vous voyez, c'est cette image de berger très positive qu'on retrouve dans le début des évangiles avec les bergers qui reconnaissent Jésus comme Messie immédiatement grâce à une expérience mystique de prière et de louange. Donc c'est très positif. Les brebis et les boucs, on peut retrouver ça peut-être un peu dans Ézéchiel. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce jugement? Alors ça a pu être compris comme une menace finalement. Bon, attention dans quel camp vous êtes, et donc une invitation à avoir une vie morale dans le service de l'autre. Et ceux qui sont assez performants dans le service de l'autre, ben ils auront des bons points et puis ils vont gagner finalement le ticket d'entrée au paradis. Et puis ceux qui n'ont pas la moyenne, eh bien, vont être recalés. Ça, c'est une vision extrêmement classique qui peut exister encore aujourd'hui, qui existait beaucoup du temps pour les juifs, les musulmans, les bouddhistes aussi, dans un sens. L'idée du salut est très basée sur la performance personnelle de la sagesse de la vie en ce monde. Et puis, quand on est bien sage, quand on est assez performant, eh bien, on gagne dans la spiritualité, dans l'élévation, dans le cheminement vers la vie, en fait. C'est très basé sur un jugement, sur la performance personnelle. Là, je ne suis pas sûr que ça soit ça du tout, si vous voulez, pour un certain nombre de raisons, et je ne suis pas le seul à le dire, parce que l'image qui est là, vous voyez, ce que le Christ a sur les épaules, en fait, c'est un bouc, hein. Et donc ça c'est quand même assez curieux, c'est-à-dire qu'en fait c'est le bouc qui est sauvé par le Christ en fait.
Le mauvais.
Et donc ça c'est quand même rigolo, parce que si vous voulez c'est un... Ils ont repris en fait... Quoi ? Exactement. Le bon n'a pas besoin d'être sauvé puisqu'il est déjà bon. Exactement. Et donc c'est là que ça exprime bien le salut par grâce et la compréhension qu'en fait... il y a de la brebis et du bouc en chacun, mais si vous voulez, quand on regarde dans le détail ce que dit Jésus sous un vernis qui pourrait ressembler à cette idée de la performance et du jugement sur la performance, en fait ça dit l'inverse parce que allez rendre visite à ceux qui étaient malades, qui ne sont pas vêtus, qui sont en prison, qui sont étrangers, ça exprime une idée d'un comportement juste, en fait. Or, s'il y en a un qui est capable d'un comportement juste, c'est bien Dieu, si vous voulez, et le Christ. Donc, quand nous sommes, comme le dit Francine, quand nous sommes nuls, manque de foi, quand nous sommes prisonniers du péché, quand nous sommes étrangers à ce qui est juste, au royaume de Dieu, quand nous sommes malades, mais que fait le Christ ? Ben, il nous le dit, il va visiter les prisonniers, il va nourrir ceux qui ont faim, il va chercher ceux qui sont étrangers, il va soigner ceux qui sont malades, il vient pour les pécheurs en fait. Et donc, si nous étions complètement nuls au point de vue de la performance, c'est justement pour nous que le Christ vient, et le Christ va avoir ce comportement qu'il déclare comme étant juste pour nous sauver. Et donc, les premiers chrétiens, quand ils ont fait cette image, si vous voulez, ils ont tout à fait, c'est une exégèse qui est très classique, qui valorise la grâce de Dieu, en fait, le Christ comme étant source de grâce. Alors finalement, ils comprennent bien avec cette illustration, c'est ce qui est évident au point de vue logique quand on lit ce texte. Nous sommes tous à la fois la brebis et le bouc. Et effectivement, quand on regarde, chaque fois que vous avez fait une chose à un seul plus petit, donc une personne qui aurait donné un seul verre d'eau à une personne qui a soif, elle fait déjà partie des justes qui sont accueillis dans le royaume de Dieu. Le pire des salauds, même sans le faire exprès, par inadvertance, il a bien donné un petit coup de main une fois à quelqu'un, si vous voulez. C'est quand même difficile de s'en empêcher totalement tout au cours d'une vie. Et puis, pour les méchants à la sortie, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait une seule fois, à un seul petit, vous êtes dans les méchants et vous êtes jeté à la poubelle. Donc, qui aurait jamais manqué une seule de chez une seule occasion de rendre service ? Même le Christ, il y a des moments, il dit, écoutez, maintenant, le guichet est fermé, je suis fatigué, j'ai besoin de me refaire, de prier, de manger, de me reposer. Donc même le Christ, il y a des moments, il dit, je suis désolé, mais le guichet des bontés et du service, il est fermé, repassez demain. Bon, cela dit, quand il est en train de se reposer, puis qu'ils arrivent quand même, il se laisse déranger dans son repos. Mais il y a des moments où il dit, écoutez, circulez deux minutes, ça me fera quand même du bien. Donc, on voit bien qu'on est forcément, le point de vue logique, on se reconnaît évidemment dans les deux camps. Et puis on peut compter sur Dieu pour, de toute façon, même si nous étions mauvais, étrangers, nuls, malades et esclaves du péché, ben pour venir nous chercher. C'est bien ce qu'exprime l'idée de berger, de toute façon. Donc finalement, ce jugement, il traverse chacun d'entre nous et il garde ce qui est bon, ce qui est éternel, ce qui est machin. Et finalement, qu'est-ce qui est bon ? Ben, je trouve que c'est assez dynamique, c'est venir, vous voyez, comme le Christ vient dans sa gloire, il dira « Venez, vous qui êtes bénis », et puis même dans ce qui est donné comme positif, si vous voulez, les exemples donnés comme comportement positif, c'est extrêmement classique dans le judaïsme de l'époque, ça représente, si vous voulez, presque la totalité du comportement normal pour s'occuper de la vie en ce monde, s'occuper des autres, s'occuper de son corps. C'est la nourriture, c'est le soin, c'est visiter ceux qui sont, accueillir l'étranger, l'hospitalité, qui existe beaucoup plus dans ces cultures-là que dans la nôtre, il faut reconnaître. Voilà. Donc c'est très classique, il manque une seule œuvre classique. Là, il en donne 6, et dans le judaïsme, il y en avait 7. Le 7e, c'est enterrer les morts. Et effectivement, ça, Jésus ne le met pas, et donc il le considère comme moins important ou pas important. Parce que, si vous voulez, le Christ, il n'est pas là venu pour enterrer les morts, hein, il est venu pour ressusciter les vivants. Donc, ce n'est pas son job, vous voyez. Et il y a un endroit dans le début de l'évangile, assez choquant, hein, où Jésus dit « Laissez les morts enterrer les morts », c'est dans... chapitre 8 de Matthieu, c'est assez choquant, mais c'est l'idée de ne pas être donc dans peut-être dans le manque d'espérance. Hein. Ce qui est mort, ben, il faut le ressusciter si c'est bon. Hein. Vous voyez, c'est dans cette dynamique, cette espérance. Donc oui, il n'est pas tellement dans l'enterrement des morts, mais tout le reste, il est dans cette dynamique de vie qu'il nous propose. Cela dit, il y a une légère inflexion aussi. Il ne dit pas chaque fois que vous l'avez fait à votre prochain ou à votre frère, il le dit chacun que vous avez fait ces choses, au verset 40, à ses plus petits, de mes frères. Donc en fait, il faut faire ça aux plus petits des frères et des sœurs du Christ, en fait. Et du coup, ça infléchit aussi le truc, c'est-à-dire que dans l'humain, on est tous à moitié brebis et moitié bouc. Donc, il propose plutôt d'être dans le soin, dans la libération, dans la visite de la brebis qui est en chacun et en nous-mêmes, c'est-à-dire dans une démarche christique, d'aller chercher ce qui est divin dans l'autre, ce qui est l'enfant de Dieu, ce qui est... et c'est cette attitude-là qui est vivante en fait, qui est vivante éternellement, qui est de l'ordre de la qualité d'être, la qualité de vie, c'est tout ce qui est agit pour promouvoir la vie supérieure dans le monde, en nous, en chacun. Oui, c'est ce qui est christique en nous finalement, qui est gardé, et donc ce qui est source de salut pour de progression de ce qui est christique. Ce qui est ressuscité, c'est ce qui est ressuscitant, si vous voulez. Et ça, on le verra souvent dans les autres textes aussi. Ce qui est vivant, c'est ce qui est source de vie. Et j'aime mieux finalement, vous voyez, cette façon de voir ce texte, à mon avis, qui du coup est moins dans la performance individuelle que de dire, de toute façon, le Christ, il ira garder le meilleur de chacun. Et on retrouve bien cette idée de grâce, si vous voulez, par la surprise des justes et la surprise des pécheurs. C'est-à-dire que les calculs de se dire « je vais agir en ce monde pour avoir la vie future », visiblement, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est l'acte qu'on a fait gratuitement. C'est-à-dire ce qui est une circulation de la générosité, de la grâce spontanée, bienveillante, tout naturel finalement en nous, et c'est ça qui est vraiment vivant en nous. Alors que si on se force à donner 100 balles au clochard, bon, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que du coup le clochard il a quand même peut-être à supposer que ce soit une bonne idée de le maintenir, de l'assister dans son exclusion. Enfin, ça c'est une autre question. En tout cas, si on fait une bonne œuvre pour avoir la vie éternelle, pour avoir son paradis, on est encore dans le calcul et dans l'égoïsme. Donc peut-être que cette œuvre peut avoir une efficacité. Si on donne des sous à quelqu'un qui a besoin de nourrir ses enfants, ben, il va pouvoir nourrir ses enfants, c'est déjà ça. Mais ce n'est pas une manifestation de la grâce et de la gratuité, de la générosité, d'un élan du cœur, voyez. Et donc ce n'est pas en soi-même porteur de vie éternelle. C'est porteur de vie tout court, hein, ce qui n'est pas du tout à négliger non plus, si vous voulez, hein, éventuellement, mais... Ce qui est porteur de vie éternelle, c'est quelque chose qui vient du meilleur, qui est christique en nous, donc qui fait ça vraiment simplement par amour du bien, par plaisir de faire plaisir. C'est ça l'objectif et le truc. Du coup, ils sont surpris. Et du coup, je ne crois pas qu'il faille être dans le calcul de se dire, voilà, si je fais bien, j'aurai la vie éternelle. Au contraire, il désamorce ça finalement. Il désamorce ce calcul. Un peu vénal finalement, de faire la charité, de faire ses prières, de faire sa religion pour avoir la vie éternelle. Il est complètement dans une autre logique et c'est bien mis en œuvre avec ça. Alors cette idée, je crois, de remettre en cause en même temps un petit peu d'une manière, vous voyez, assez délicate, l'idée de performance personnelle comme étant source de critère de vie future, à mon avis c'est comme important, parce que si on a ce critère de performance personnelle pour avoir la vie future, eh bien on exclut les handicapés mentaux, ce qui me semble extrêmement cruel. Déjà ils sont affligés d'un handicap quand même assez lourd, hein. Mais en plus, par rapport à cette... Si on est basé sur la performance, on va le dire, mon coco, je suis désolé, mais... Quoi ?
Oui, le génisme.
Ben, le génisme, d'abord, et puis même en disant, ben, celui qui est, on l'a vu, hein, des handicapés auxquels on peut refuser le baptême ou voyez, ce qui est épouvantable, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, voilà, et c'est pas parce qu'ils sont moins performants qu'ils sont moins aimés. Donc, même par leurs parents eux-mêmes, moi je connais des. Je me souviens avoir enterré une fille d'une trentaine d'années. Ses parents la regrettaient comme ils auraient regretté n'importe quel autre de leurs enfants, bien entendu. Pourtant, la fille, elle était vraiment pénible à vivre. Hein. Elle était placée dans un institut toute la semaine parce qu'elle criait du matin au soir. Et donc, ils l'avaient le week-end, mais le week-end, c'était quand même vachement dur. Hein. Vous voyez, donc, elle n'était pas performante, la gamine. Hein. Faut dire, hein, c'était quand même... vous voyez, mais elle n'a jamais été visiter quelqu'un qui était malade, en prison, elle n'a jamais nourri quelqu'un qui a faim, etc. On pourrait dire, mais alors celle-là, c'est droit pour la poubelle. Mais c'est quand même pas sympa, parce que on ne sait pas ce qu'est dans la tête des gens, vous savez. Donc, bref, oui.
Mais ceux qui sont maudits, là, c'est plutôt les indifférents.
Ceux qui sont maudits, c'est...
Vous n'avez pas.
C'est même pas les méchants, en fait.
C'est même pas les méchants.
C'est même pas les méchants. C'est même pas les méchants. Alors, les méchants, on n'en parle pas. C'est vrai que c'est intéressant, tout à fait. C'est que même celui qui est indifférent, qui ne fait pas le mal, ça suffit pas, finalement. Parce que c'est mort, finalement. Parce que c'est mort. Mais c'est ce qui est mort en nous, finalement. C'est des branches mortes, hein, de notre existence, de notre être, de notre vie. Et finalement, être débarrassé de ça, c'est pas une torture ou une punition, c'est au contraire une délivrance. Et dans un sens, c'est là que ce jugement ici qui est donné, c'est un service, encore un service de l'amour de Dieu qui est encore un soin du malade. C'est comme quand on taille... moi, je suis pas très bon en jardinage, hein. Mais quand on taille des branches mortes sur un arbre, c'est pas pour le torturer, c'est... c'est ça qui va permettre d'avoir des nouvelles pousses, parce que le bois mort au bout du...
En fait,
on élague. On élague une branche morte, du coup, c'est ce qui va permettre...
de lui redonner de la vigueur.
Leur redonner de la vigueur et qu'une nouvelle branche puisse pousser. Sinon, le bois mort empêche de... Non, je crois.
Si, souvent. Après, il y a juste la saison, il faut le couper ou pas. Alors ça, c'est... il y a des gros livres là-dessus.
Et il y a la lune, lune montante, je ne sais pas. Hein. Je sais pas, quand est-ce qu'on est là à l'automne, non?
Oui, souvent en novembre.
En novembre. Oui. Bah, donc voilà, il y a une saison pour ça, et c'est vrai que du coup, moi je crois que... Et même quand on parle du feu éternel, vous voyez, ouais. Le feu éternel, c'est pas une torture, le feu, c'est un agent de purification. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, l'idée, par exemple, celui qui construit n'importe comment, dit l'apôtre Paul... il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il sera sauvé quand même, parce qu'il on va, Dieu va garder l'or qui est en chacun, et le minerai va être brûlé. Oui. Donc là, c'est ce qu'on retrouve un peu, si vous voulez. Hein? Parce que le châtiment, justement, il y a marqué châtiment dans la traduction, parce que c'est dans le cliché habituel, si vous voyez, ce qu'on voit d'ailleurs gravé dans les tympans des cathédrales, où hein, ça se souvent exprimé. C'est souvent d'ailleurs assez sympathique. Les menteurs sont accrochés avec des crochets de boucher par la langue, si vous voulez. Les, les mauvais sont passés sur un grill. Alors, ceux qui ont les fornicateurs sont empalés, si vous voulez. C'est, voilà, ça va avec. C'est souvent assez imagé. Hein. C'est vrai, ça donne envie. Sauf que les justes, ils ont l'air de s'ennuyer, moi, je trouve. Non, ils sont là, bien sages, en rang comme ça. On se dit, mais... c'est pas la fête là-haut. Alors qu'ils devraient les représenter
ils font
en train
de. La musique. Hein?
Des fois, ils font de la musique. Les anges qui font plus de la musique. Les justes, des fois aussi. Bon, si ça va. S'ils font de la musique, ça va encore. Donc c'est pas comme. Oui, non. Donc, c'est pas châtiment, en fait, c'est l'élagage, en fait.
Hein? Le mot grec.
C'est kolassis. C'est kolassis, c'est on pourrait dire retrancher, élaguer, mais c'est un verbe technique qui peut très bien vouloir dire élaguer. Donc, c'est là encore, c'est élaguer comme on élague une vigne pour qu'elle puisse pousser. Donc, j'espère que vous avez déjà moins peur. Et que ce jugement est à recevoir dans le temps présent, en fait. Ce viendra du début, c'est chaque fois que le Fils de l'homme vient dans votre existence, dans sa gloire, et la gloire de Dieu, là aussi, c'est pas très clair, si vous voulez. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la nuée ardente, si vous voulez, c'est une image, bien entendu, cette présence de Dieu qui donne à son peuple aussi bien la loi, la révélation, des indications pour avancer, pour vivre, et puis qui donne aussi, qui précède les Hébreux dans le désert, dans cet chemin de libération qui va leur marquer une direction, une piste, leur donner de la nourriture, leur donner de l'eau. Donc la gloire de Dieu, c'est Dieu en tant qu'il se rend présent auprès de son peuple pour l'aider à se libérer, à s'en sortir, à passer de l'esclavage d'Égypte pour passer dans la terre de la promesse, pour aller dans la vie éternelle. Et cette image de libération hors d'Égypte pour aller dans la terre promise, elle a été relue par les Hébreux d'abord, puis par les chrétiens, comme exprimant justement le salut de Dieu qui nous permet de nous libérer du péché pour aller dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, qui est à vivre maintenant. Alors les anges aussi, c'est la parole de Dieu, ça peut exprimer la prière, ça peut exprimer notre perception donc de ce que Dieu nous donne, nous indique. Vous avez des remarques par rapport à cette première... Alors sinon, Luc 10, vous voyez, alors c'est un passage qui est extrêmement connu. Il y a un docteur de la loi, un théologien, un bibliste, qui dit: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors c'est intéressant, c'est que souvent on hérite de la vie éternelle, justement, on ne la mérite pas. L'héritage, il n'y a rien de tel qu'est un don gratuit des parents, grands-parents qui nous ont précédés. On n'a pas travaillé pour, ça nous tombe dessus comme un cadeau. On n'a pas travaillé, c'est comme ça. C'est un don de l'amour pur, parce que les générations précédentes auraient pu tout croquer si elles voulaient. Donc, on hérite la vie éternelle. D'ailleurs, on l'avait aussi, je pense, au-dessus. Donc, il dit, qu'est-il écrit dans la loi qui l'étude? Donc, il y a une invitation à nous-mêmes lire la Bible, réfléchir sur qu'est-ce qu'est de l'ordre de la vie éternelle. Alors le monsieur répond, ce qui est de la sagesse en fait, mais dans l'évangile selon Marc, par exemple, c'est mis dans la bouche de Jésus lui-même qui résume la loi de Moïse avec cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, je le dis souvent, mais tu aimeras de toute ta pensée, ça c'est vraiment rajouté par Jésus en fait, le chemin à Israël, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, point. Toute ta pensée, toute ton intelligence, toute ta réflexion personnelle, ça c'est vraiment du Jésus tout craché, qui confie à chacun, même le plus simple, la mission, la vocation de réfléchir, de creuser, de se faire sa propre opinion, d'adapter, si vous voulez, la loi même de Moïse, la Bible, intelligemment, aux circonstances particulières de son existence. C'est très important, à mon avis, comme ajout. Alors, je crois que dans ce passage, alors ici, il faudrait regarder exactement qu'est-ce que c'est, mais...
La Bible de Jérusalem traduit ton esprit.
Elle traduit comment ?
Esprit.
Je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que c'est pas esprit, en tout cas, hein. 10 parce que dans
nous, ça peut être esprit.
Donc, ah bon,
si c'est nous, oui, ça marche,
mais dans, en tout cas dans Marc que je connais mieux pour cet épisode, on retrouve pour cette intelligence réflexion personnelle, on trouve un peu tout, on trouve nous, dianoia, on trouve l'intelligence, la réflexion. Alors là c'est 10 27. C'est dianoia. Donc là, c'est vraiment, la pensée, la réflexion, l'intelligence. Dianoia, c'est l'intelligence, la réflexion, le discernement. Voilà, ça c'est quand même... Alors, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et donc, c'est l'idée quand même que cet amour de Dieu, cet amour du prochain, qui est fait dans une vraie dynamique, si vous voulez, parce que aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire le cœur, c'est pas le sentiment, c'est la capacité à prendre des décisions. L'âme, c'est pas l'âme, la partie spirituelle, on l'avait vu la dernière fois, c'est plutôt la vie, la dynamique de vie interne, hein, c'est ce qui est vivant dans notre vie. Donc, aimer Dieu de toute notre âme, c'est être dans une dynamique d'évolution, de conversion, de progression, d'approfondissement, etc. Toute ta force, là, ça peut être l'action, hein, aimer son prochain comme soi-même par l'acte aussi, hein. C'est en construisant le royaume, ça peut être aussi en plantant des arbres et en arrachant les orties, si vous voulez. Hein, on a la mission de poursuivre la Genèse initiée par Dieu dans le monde. Et toute la pensée, ben, ça peut être effectivement faire ça avec intelligence, bon sens, en faisant de la théologie aussi, en cherchant ce qui est juste. Dans un monde qui, de toute façon, est forcément complexe, où le bien et le mal sont souvent mêlés, comme on vient de le voir dans Matthieu 25. Voilà. Donc, c'est vrai que si on prend Matthieu 25, par exemple, on se dit un monstre violeur d'enfants, etc., on lui coupe la tête. Bon, effectivement, ça supprime le bouc, mais on a coupé la tête de la brebis avec, si vous voulez. Donc, ça manque un peu de discernement, ça manque un peu de finesse, en fait. Donc, il peut y avoir comment faire après. Donc, justement, dans ces difficultés, on est obligé de naviguer un peu à vue et de chercher le moindre mal plutôt, à défaut de pouvoir choisir le bien pur. Fais cela et tu vivras. Et suis la parabole du bon samaritain, qui est une parabole qui est assez fine en fait, que vous connaissez peut-être par cœur, mais qui est très intéressante, où justement on creuse la question de savoir aimer Dieu, aimer son prochain, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme priorité. Et finalement, la fin de cette parabole, Jésus nous invite à nous considérer d'abord comme étant celui qui est blessé, c'est-à-dire qui est à moitié mort sur le bord du chemin, nous laisser déjà ressusciter par cet étranger qui passe, qui est le Christ dans un certain sens, ou qui est l'autre, et qu'on soit ensuite rendu capable à notre tour d'être christique pour les autres. Donc il y a un retournement un peu dans la parabole qui nous invite à être déjà au bénéfice de l'amour de Dieu, et puis aussi de participer à cet amour en faisant de même. Mais là encore, qui rétablit les choses, vous voyez, c'est pas dans la performance même d'être capable d'aimer. Ça, on va le retrouver, on l'avait vu déjà la dernière fois dans la première lettre de Jean. Le secret, c'est l'amour dont nous sommes aimés, et pas tellement l'amour dont on aime, qui peut être un fruit de l'amour que nous avons reçu. Mais voilà, le secret de la vie éternelle, c'est d'abord l'amour dont nous sommes aimés. Je pense que c'est aussi une illustration de Matthieu 25, c'est ce résumé, si vous voulez, de la première lettre de Jean. Alors ensuite, peut-être, il faut rentrer dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, dans Jean 1, si j'ai gardé ce passage, vous voyez, c'est que le verbe « demeurer », Méno, Ménein, c'est souvent beaucoup plus lourd que de dire « voyons voir où Jésus habite hein. ». « Maître, où demeures-tu ?» c'est un peu plus que ça. C'est savoir où est-ce que tu demeures vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui en toi est de l'ordre de la vie éternelle, est de l'ordre de ce qui demeure dans ce monde qui est impermanent, finalement, qui est transitoire, temporaire, où tout s'use. Qu'est-ce qui vraiment demeure dans le Christ ? C'est ça qu'ils ont senti, finalement. Alors, ils lui demandent, comme à un rabbi, comme à un enseignant, ils lui disent, en fait, c'est à expérimenter. Hein. Voyez, leur dit-il, venez et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, dès ce jour-là. Et donc c'est une dynamique, à mon avis, qui est intéressante, parce que Jésus, voyez, il est dans une dynamique. Jean-Baptiste, lui, est arrêté, Jésus y passe, et c'est dans la mesure qu'il passe qu'il est l'agneau de Dieu. Et quand on dit agneau de Dieu, c'est pas un agneau qui est offert pour acheter la bienveillance d'un Dieu méchant. L'agneau de Dieu, c'est un agneau qui est offert pour qu'on le mange. Et donc, c'est un petit peu le mode d'emploi, finalement. Il faut manger le Christ, il faut manger cette dynamique de vie, ce Jésus qui passe. Il faut manger expérimenter, assimiler cette façon d'être dans le monde qu'est le cheminement de Jésus. Donc Jésus, il passe, et ils entrent dans cette dynamique, et puis Jésus, il se retourne, ça veut dire se convertit, c'est le verbe de la conversion, donc ça nous invite aussi à entrer dans une conversion, et puis à recevoir cette façon d'être dans la vie éternelle, si vous voulez, qui est en fait là où il demeure cheminement, si vous voulez, il demeure en chemin, il demeure c'est dans cette mobilité qu'il demeure. C'est ce qu'on voit plus loin, c'est dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité, c'est ce cheminement de vie. Où demeures-tu? C'est pas savoir s'il a une maison avec des volets bleus ou des volets verts. Hein, c'est pas la question. C'est voir ce qui demeure en lui. Alors là, c'est un peu polémique. Donc dès ce jour-là, il demeure dans la vie éternelle, en fait. Hein. C'était comme une dixième heure. Ça vient comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Que ce soit 10 heures? 10 heures, c'est l'heure du goûter, en fait. Hein. Ça peut dire c'est l'heure du goûter. Bon, ben on va partager un pain au chocolat. Non, c'est rien à faire. C'est que c'est l'heure de la. C'est l'heure des. Les 10 commandements, si c'est 10, c'est parce que c'est le nombre de doigts de la main. Ça exprime ce qu'il faut faire, en fait. Ça exprime la vie humaine, si vous voulez. Donc là, c'est l'heure, la dixième heure. C'est-à-dire, c'est l'heure, c'est le temps de l'action juste en réponse. Comme une. Comment dire un fruit. Tout naturel, c'est du fait de demeurer dans la vie, en fait. De cette vie qui est en eux, du coup, pan, tout d'un coup, c'est la dixième heure, c'est comme pour un pommier, le temps de donner des pommes, ça vient tout seul, parce que c'est la saison des pommes. Donc là, à partir du moment où il demeure, pan, c'est la saison de produire des fruits. C'est ça que ça veut dire. Et les fruits, c'est quoi? C'est que... aussitôt, finalement, ils vont témoigner, en fait. Vous voyez, ils sont dans le témoignage, et donc là, mais très souvent, on le retrouve, hein, la preuve que quelqu'un est vivant, c'est qu'il est source de vie, finalement. C'est un signe. Alors, dans la mesure du possible, effectivement, mais c'est souvent un signe. Voilà. Quelqu'un qui est ressuscité, il est ressuscitant. Alors ensuite, Jean 3,16, c'est le verset le plus connu de la Bible, en fait. Hein. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. » Alors, « croit en lui », ce n'est pas le verbe de la croyance, hein. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la foi, c'est la confiance. Donc, ça n'exclut pas le doute ou les erreurs de pensée, de dogme, ou je ne sais pas quoi. C'est la foi, la recherche, l'attente de Dieu, la confiance, machin, ne meurt pas. Mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, qui a foi en lui, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, vous voyez, le jugement, ce n'est pas un jugement de sélection des gens, c'est un jugement de fait, en fait. Il y a du vivant et du mort en nous. Ce qui est vivant, ce qui est mort, c'est pas une question d'être condamné à mort ou condamné à des châtiments éternels. C'est un jugement de fait. Dieu garde ce qui est de l'ordre de la vie en nous, et puis ce qui est vivant est gardé, est vivant pour toujours, et puis ce qui est mort, bah, c'est mort, c'est tout. Voilà. Et donc ce qui est vivant, c'est ce qui est de l'ordre de la foi, etc. De l'ordre de la... lors de la confiance, en fait, hein. Quelque chose comme ça. Bonjour Michel. Il y a une petite feuille à prendre sur la chaise.
Pisteo, quand même, s'écrit avec oméga.
Pisteo ?
Oui.
Oui. Alors, oui, c'est un oméga, c'est qu'en fait, c'est vrai que mon programme, il met des. Je ne sais pas pourquoi, il met des O à la fin des trucs au lieu des oméga, il ne sait pas les mettre. J'aurais dû mettre un petit oméga, c'est une question de police en fait. Une question de police. Voilà. Donc, ensuite, il y a Jean 4, qui est aussi un passage connu, avec la Samaritaine, si vous voulez. La Samaritaine est au bord d'un puits, et puis, puits de Jacob, et puis finalement, Jésus montre l'eau du puits et dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc il y a cette idée, oui, donc d'une source d'eau qui sera en nous, qui jaillit dans la vie éternelle. Alors l'eau, à mon avis, c'est un symbole là de... Bien sûr, il ne faut pas le prendre littéralement. Il n'y aura pas un puits artésien qui va couler dans nos tripes. Ce serait quand même plutôt embarrassant, je pense, dans la vie quotidienne. Hein. Il faut le prendre évidemment au sens figuré. À son sens figuré, qu'est-ce que c'est ? L'eau, c'est symbole de bénédiction. Hein. Dans ces pays assez secs, c'est un symbole de ce qui peut être source de vie. Donc, bénédiction de Dieu. On est source de bénédiction, source jaillissante de bénédiction. C'est aussi l'image de la parole. Hein. Donc c'est aussi l'idée qu'on va retrouver fréquemment dans l'évangile selon Jean où c'est pas simplement une parole de la Bible à apprendre par cœur, à réciter, mais c'est ouvrir en nous des sources de nouveautés de parole, de nouveautés de sens, des nouveautés de projets, de créativité, de choses comme ça, qui peut jaillir en nous finalement. Une source de parole avec un grand P, de parole de Dieu qui peut jaillir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est en même temps immense, si vous voulez, comme promesse, mais qu'on peut voir, par exemple, rapproché de la Pentecôte, hein, où il y a le don d'une flamme de feu qui est donnée individuellement à chaque personne, à chacun des personnes présentes à la Pentecôte, qui est source de la vie même... de la révélation, en fait, ou vie même de la vie, qui est donnée à chacun pour une créativité personnelle. Donc c'est quand même quelque chose d'immense qui est donné là, qui est promis ici. Alors, Jean 5, à partir du verset 24, hein, c'est pas mal aussi parce que, vous voyez, il y a l'idée d'une résurrection qui est déjà passée, finalement. Hein. Je vous le dis en vérité, amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc ça, c'est au présent, en fait. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé, en fait. C'est déjà passé de la mort à la vie. Donc par rapport au schéma où on est vivant en ce monde, si on est bien sage, on a la moyenne. Si on a la moyenne, on a le ticket pour entrer dans le paradis, et puis si on n'a pas la moyenne, on est jeté à la poubelle. Ça remet en cause ça, si vous voulez. La question, c'est de recevoir aujourd'hui la vie éternelle en recevant sa parole. Mais là, la parole, là aussi, si vous voulez, c'est pas apprendre par cœur un dogme, une doctrine, une chose comme ça. C'est vivre de ce jaillissement qui est exprimé précédemment. Voilà, en fait, qui est la vie jaillissante à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Vous voyez, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc vous voyez, la résurrection des morts, c'est pour maintenant. Et l'heure vient et elle est déjà venue, c'est intéressant parce que nous, on aime les choses claires. On aime qu'une porte soit ouverte ou fermée. On est dans une logique du binaire. Mais là, on est dans une logique du graduel. L'heure vient, elle est encore en train de venir, et pourtant, elle est déjà là, l'heure. Hein. L'heure de la résurrection, l'heure du jugement en gloire de Matthieu 25, l'heure de ce tri entre le brebis et les boucs, l'heure de la résurrection des morts. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, c'est pour notre vie, c'est à vivre par la foi, en fait. Donc c'est vrai que là, je crois que ça, c'est quand même changements de logique qui sont importants à saisir, en fait, pour comprendre de quoi on parle avec ces histoires de jugement, de vie future, d'éternité. On est déjà dans l'éternité par cette logique de la grâce et de la foi, en fait. Alors c'est ce qu'on verra peut-être un peu plus loin dans Jean 11, mais à cause de ça, si vous voulez, de ce glissement, il n'y a pas de vie future. C'est la vie présente, le meilleur de la vie présente qui continue, si vous voulez. Et donc on dit, souvent il y a des gens qui me demandent, mais est-ce qu'on retrouve ceux qu'on aime dans la vie future ? Non, on ne les retrouve pas. On reste avec eux. Comprenez ? On reste avec eux. C'est-à-dire que ce qui est vivant de la relation avec quelqu'un qu'on aime, ben, ce n'est pas parce que leur corps est mort qu'on les cesse de les aimer. Donc ce qui est vivant dans cette relation, dans cet amour, ben, reste vivant encore après. Ce n'est pas qu'on les retrouve. On reste avec eux parce que l'amour est plus fort que la mort. Donc ça, vous voyez, ça se décline dans des choses extrêmement concrètes quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça permet peut-être de se rendre compte de ce qui fait la vraie valeur de la vie, du temps présent. Je crois que c'est assez concret quand même. Ça a des implications importantes. Aussi dans le regard qu'on peut avoir sur les gens. Pour nous, les gens, on a tendance naturellement à faire le tri entre les gentils et les méchants. Mais ça, c'est pas très... C'est pas très efficace, si vous voulez, comme clé de compréhension du monde, de notre vie et des autres. Il vaut mieux être dans une finesse, une progressivité. Déjà, il y a de la brebis et du bouc en chacun, mais en plus, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc il y a quelque chose qui est en train de se déployer, si vous voulez. Le grain est en train de tomber en terre et déjà ça germe. Donc il faut voir ce développement, en fait, de ce qui est bon, qui pour l'instant est minuscule, mais qui est promis à devenir un arbre, pour reprendre l'image qu'on avait au début sur le petit dessin des catacombes. Alors Jean 6, on parle de la même chose, un petit peu, sauf qu'on change d'image. Jésus, si vous voulez, alors il y avait l'agneau de Dieu, il y avait l'idée de Jésus est source d'eau finalement, de bénédiction, de parole qui devient parole et bénédiction en nous, source de bénédiction de parole en nous. Là maintenant, il est pain vivant finalement, hein, le pain de vie, ou le pain vivant, oui. Ou le pain source de vie, en fait. Descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et puis il dit, mais la manne dans le désert, c'était pour rire, hein, par rapport à... Voilà, donc effectivement, il y a une invitation à comprendre spirituellement mais ce que faisaient les Hébreux, et ce qu'ils font encore quand ils célèbrent la Pâque aujourd'hui. C'est pas pour faire mémoire d'un événement passé, c'est... pour s'ouvrir au salut de Dieu aujourd'hui et maintenant, bien sûr, et c'est ce que nous faisons à Pâques. Hein. Donc là, il y a le mode d'emploi un peu de cette vie qui est donnée en Christ, c'est-à-dire qu'il faut le manger, en fait. Hein. Qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle, en fait. Et je le ressusciterai au dernier jour, ce dernier jour hein, qui est le présent, hein. Dernier jour qui vient et qui est déjà là, bien sûr. Donc ça, c'est un peu le mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire la parole du Christ, elle est à connaître par cœur comme un dogme, une récitation, ou alors une obéissance à bien faire, à aller visiter les malades, machin, les prisonniers, mais c'est pas ça. Il faut manger, et quand on mange une tartine de pain, on ne devient pas une grosse tartine. Ça nous nourrit de l'intérieur et on devient nous-mêmes, mais plus en forme. Et joyeux aussi, parce qu'une bonne tartine, c'est pas désagréable. Donc c'est le mode d'emploi du Christ, en fait. Il faut le manger, le mâchouiller, le déconstruire même, le digérer, l'assimiler, et que ça devienne la vie de notre vie. Et on ne devient pas des petits Jésus. On est nourri par le Christ et on est nous-mêmes, en fait. Oui, on est nous-mêmes, mais plus en forme. Hein. Voilà. Et je le ressusciterai au dernier jour, ben c'est aujourd'hui le dernier jour, hein. Ou c'est même dans le passé. On a déjà été un peu ressuscité par le Christ. La preuve, on a été mis en mouvement pour se retrouver. Donc c'est quand même déjà quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance, d'une foi, d'un amour, hein. Qui en même temps est encore à venir, hein. Voilà. Alors en même temps, il y a un petit peu un jeu de mots celui qui mange ma chair. Bah, en hébreu, il y a un peu un jeu de mots. Alors effectivement, en français ou en grec, ça se voit moins. C'est que la chair, c'est, en hébreu, c'est bassar, et l'évangile, c'est bessora. C'est la même racine, en fait. BSR, hein, c'est à la fois la chair et à la fois c'est la bonne nouvelle, l'évangile. Donc il y a un petit peu un jeu de mots. Cette chair qu'il faut manger, c'est la parole du Christ, c'est la bonne nouvelle, c'est cette confiance en Dieu, cette promesse de, que la vie éternelle nous est déjà donnée, nous est déjà acquise en fait. Elle est déjà en gestation, en germination en nous en fait. Elle est déjà acquise et elle est encore en développement, c'est ça. Alors les disciples ont du mal à saisir, hein, bien sûr, hein, il y en a qui s'en vont, qui se désespèrent, hein, donc vous voyez, on n'est pas plus nul que d'autres, hein, que les disciples en tout cas. Ça va. Mais il dit, bon, il ne faut pas comprendre ça au pied de la lettre. Il ne s'agit pas de devenir anthropophage. Il faut comprendre ça spirituellement, par l'esprit, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit, dans la Bible, c'est la dynamique d'évolution et de vie qui vient de Dieu, dynamique de création. Donc ce n'est pas simplement non plus l'esprit, ce n'est pas quelque chose de... Comment dire ? Je ne sais pas ce qu'on peut s'imaginer quand on parle d'esprit en français, de Saint-Esprit. C'est quelque chose d'un peu mystérieux, si vous voulez. Moi, je dirais que c'est simplement une dynamique d'évolution et de vie de Dieu. Donc, on s'en rend compte a posteriori, qu'on a croisé le Saint-Esprit ou que l'Esprit a été en nous, quand tout d'un coup, ben, il y a quelque chose de nous, en nous qui a ressuscité, qui est passé de la mort à la vie, un peu plus vivant, un peu plus vivifiant, un peu plus source de salut pour les autres et pour nous-mêmes, plus enraciné dans l'éternel que dans le mourant. Donc je crois qu'on dit ça, c'est l'esprit qui vivifie, c'est à recevoir, ces paroles sont à recevoir comme esprit et vie, c'est-à-dire il faut les vivre... en se laissant créer, bonifier, rendre plus moins désespéré, j'allais dire.
L'esprit est immortel.
L'esprit, oui, bien sûr. Oh, oui, tout à fait, vous avez raison, Nicole. L'esprit, d'abord, il est éternel, mais en plus, il est source d'éternité. C'est-à-dire qu'il est... En même temps, il nous crée, en même temps, il nous rend créateurs. En même temps, il nous ressuscite, en même temps, il nous rend ressuscitant. Alors, on voit ensuite Jean 11, c'est le passage le plus connu, si vous voulez, aussi autour de ces questions de vie éternelle, parce qu'il y a Marthe qui pleure son frère Lazare qui est mort. Et là encore, c'est pas parce qu'on a une vie future que la vie présente est nulle et sans importance. On voit le verset peut-être le plus beau, en tout cas le plus court de la Bible, c'est le Jean 11, 35, le dernier du passage que je vous ai marqué. Jésus pleura. C'est le verset le plus court, hein. Il fait deux mots en français, peut-être trois mots en grec. Donc vous voyez, Jésus s'en fiche pas de la mort d'un proche, parce qu'il y a quand même une séparation. Et ça, c'est dur, hein, évidemment. Ça n'empêche, il dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Donc, en fait, il y a une vie future. Et Marthe répond, en même temps, c'est sympa, en même temps, c'est pas ça qui me console, parce que c'est pas parce que je sais que mon frère vivra dans la vie future, ça me console pas de l'absence de mon frère maintenant. Et ça, c'est quand même assez intelligent comme remarque. C'est pas une vraie consolation, et à mon avis c'est pas là-dessus qu'il faut compter de toute façon. Faut pas que ce soit là la consolation. Et donc il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Donc en fait, tout d'un coup, il lui dit, la question, c'est que toi tu ressuscites maintenant. Pour ton frère, c'est une question qui est déjà réglée. La question, c'est que toi tu puisses ressusciter, c'est-à-dire que la relation à ton frère qui est blessé parce que le visible n'est plus là, elle puisse ressusciter dans une relation qui reste réelle, si vous voulez, mais qui du coup peut ressusciter dans l'esprit, dans l'amour, dans la relation qui continue, et où son frère peut continuer à être vivifiant pour elle, finalement. Et donc celui qui croit en moi vivra même s'il est mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra, ne sera jamais éternellement, il ne connaîtra pas la mort. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde, au présent. Et donc, elle comprend bien que la question, c'est sa foi à elle, aujourd'hui et maintenant, pour être dans la résurrection, pour être dans ce nouveau regard, et que la mort de son frère ne soit pas, pour elle, une victoire de la mort sur sa vie, mais que sa relation à son frère puisse ressusciter, son espérance puisse ressusciter, sa présence au monde puisse ressusciter, et qu'elle retrouve son frère, non pas dans la vie future, pas en attendant la vie, sans attendre la vie future, mais qu'elle retrouve son frère dans un amour présent, finalement. Et immédiatement, ce qui est rigolo, si vous voulez, c'est que oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. On se dit, mais elle va rester scotchée au Christ. Elle a trouvé la source de vie, de résurrection. Ben non, elle est aussi sec. Elle tourne les talons, elle va vers sa sœur. Donc ça montre bien, si vous voulez, d'abord que le Christ, il ne ressuscite pas pour nous enchaîner, mais en plus, ça montre bien que aussitôt elle est ressuscitée, elle devient ressuscitante. C'est dans le verset 27-28, oui. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. C'est quand même rigolo, ça, je trouve. C'est que du coup, elle a cette vie à l'intérieur d'elle, en fait. Voilà, voilà. Bon, ensuite, Jean 14 ou Jean 17, bon, on retrouve l'idée que... Mais c'est, j'en ai déjà parlé, sinon c'est que... Les jeunes, en fait, sont choqués par ça. C'est... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en disant, Jésus, il la ramène à lui, ou celui qui croit en moi vivra. Non, c'est pas ça. C'est pas pour faire le malin en disant, hors de moi, point de salut. C'est pour dire ce qu'est vraiment vivant en Christ. Et c'est le Jean qui en témoigne. Si on vit en communion avec ça, ben, on est vraiment dans la vie. Alors on peut remplacer je suis le chemin, la vérité et la vie par... par l'amour ou l'espérance ou la foi en Dieu, la confiance ou est le chemin, si vous voulez. C'est pour dire, voilà, celui qui aime, il est vivant, celui qui aime pas, il est dans la mort. Il n'y a pas d'autre chemin vraiment de vie que d'aimer, que d'espérer, que de faire confiance en Dieu, que d'être dans le service de l'autre pour le plaisir de rendre service. C'est ça qui fait vivre, c'est ça qui est vivant. C'est pas pour dire, voilà, il n'y a que Jésus et tous ceux qui sont en dehors de Jésus sont complètement morts, sont dans la vie, dans la perdition, le châtiment éternel. Non. Au contraire, on peut lire ça comme une ouverture. Nul ne vient au Père que par moi. Donc quand on remarque quelque chose de vraiment vivant dans un, même dans un athée, mais évidemment dans un quelqu'un d'une autre religion, on peut dire, ben, y a du christique en lui. On reconnaît en lui, chez l'athée, chez la personne généreuse, chez quelqu'un bien, quelque chose de christique en lui. Donc c'est au contraire, on peut le lire comme étant une ouverture et reconnaître qu'il y a du Christ, du cheminement vrai et de la vie en chacun. C'est ce qui nous a invités à reconnaître dans la brebis, dans les brebis et les boucs, finalement. Voilà, je ne veux pas que ce soit plus long pour ceux qui devraient poursuivre leur petite route, parce qu'il est leur achant. En tout cas, bon, pendant l'année, il y a d'autres études bibliques. Il y en a une mardi après-midi avec James Woody autour d'Ézéchiel.
Le prophète de la captivité.
Pardon ?
Le prophète de l'époque de la captivité, je crois, oui.
Tout Ézéchiel. C'est un très grand prophète. Des tas d'images aussi absolument magnifiques et passionnantes. Et puis on a une étude biblique aussi œcuménique, un mercredi soir par mois, avec un prêtre, Jérôme Prigent, de Saint-Eustache. Alors là, ça c'est autour de cette phrase du psaume, là, qui nous fera voir le bonheur, et donc de voir un peu comment comprendre le bonheur qui nous est promis dans l'Évangile, mais aussi plus largement dans la Bible. Voilà. Bon, bonne route, merci.